France Culture.
Hélas, cher ami, ta voix ne se fera plus entendre. Mais sois assuré que son souvenir restera gravé dans nos mémoires. Et lorsque nos enfants écouteront tes disques, c'est les larmes aux yeux que nous leur raconterons ta vie, ton esprit généreux, et que nous leur inculquerons l'idée que personne n'a jamais égalé ton génie. Adieu, Habiba. Repose en paix, ma sœur. Tu l'as bien mérité.
Habiba Msika, une artiste libre aux multiples talents.
Hélas, cher ami, ta voix ne se fera plus entendre, mais sois assuré que son souvenir restera gravé dans nos mémoires. Et lorsque nos enfants écouteront tes disques, c'est les larmes aux yeux que nous leur raconterons ta vie.
Habiba Msika, ou plutôt Habiba Msika, prononcée en arabe, est une chanteuse, comédienne et indépendantiste tunisienne. L'artiste à la carrière fulgurante et à l'aura fascinante est née aux alentours de 1899, 1900 ou 1903 selon les sources, et morte tragiquement en 1930, victime d'un féminicide. Ce documentaire tente modestement de dresser le portrait de cette femme engagée aux multiples talents. Habiba Msika, une artiste libre aux multiples talents. Un documentaire de Noujoud Rejbi, réalisé par Félix Levaché.
Bah alors, là tu fais dodo. Alors tu fais dodo avec Mina. Allez, fais dodo. Voilà.
Est-ce que Sonia, vous pourriez me dire qui est sur vos genoux?
Alors sur mes genoux, il y a ma petite fille, l'arrière petite fille d'Habiba Msika. Viens. Donc on va peut-être commencer par le piano, qui est un piano mécanique. On a un piano qui à la base était en acajou foncé, mais que moi je trouvais que ça faisait trop mastoc, donc je l'ai fait céruser. Mais à la base il était en acajou foncé. Et donc c'est un piano mécanique qui marche avec des rouleaux. J'ai la totalité des rouleaux où elle chante, etc. Les disques également.
Et donc c'est votre père qui vous a transmis ce piano?
Mon père me l'avait offert pour un de mes anniversaires il y a 20 ans, une vingtaine d'années. Et je l'ai toujours eu chez moi. Parce que bon, déjà je suis la seule qui joue du piano.
Donc, c'est pratique. Voilà. Et vous avez appris à jouer sur ce piano?
Sur ce piano-là, oui.
Donc le piano de votre grand-mère, c'est impressionnant.
Je m'appelle Sonia Arouas. Je suis la petite fille d'Habiba Msika. Et son héritière directe, puisque mon papa n'est plus là. Mon papa, qui était son fils adoptif, c'était le fils de sa sœur chérie, d'ailleurs unique sœur. Elles habitaient ensemble. Elle lui a dit que je peux adopter ton fils, et comme ça sera mon seul héritier.
Vous aviez aussi donc une de ces...
Alors ça, c'est une de ces bibliothèques. Et vous voyez tout ce qui est argenterie, vase, etc., qui est ancien, c'est à elle. Les pilons qui sont là, les brosses.
Donc ça, c'était ses brosses à elle?
Oui. Oh.
Mais c'est hyper bien préservé, quoi.
Ah ben oui, mais moi, j'y fais attention.
Qu'est-ce que vous avez d'autre?
Tout ce qui sert à la toilette, donc tous ces objets de salle de bain. Vous voyez, par exemple, pour poncer les ongles.
Donc là, il y a eu les ongles d'Habiba Msika.
Ah oui, oui. Il n'y a eu que les ongles d'Habiba Msika. D'ailleurs, personne d'autre s'en est servi.
Il n'y a pas une transmission un peu...
Non.
On voit aussi qu'elle avait une certaine classe un peu, quoi.
Quand elle rentrait dans une pièce, tout le monde la regardait. Enfin, elle happait le regard des gens. C'était magnétique, en fait.
Ça, c'est fou.
Ça, son fumoir. C'est ciselé et c'est avec ses initiales.
C'est dingue. Et tout ça, c'est votre père qui les a gardés?
Oui. Tout ça, c'est des choses que j'ai récupérées au décès de mon papa.
Et il est décédé en quelle année ?
Il est décédé en 2018. Ensuite, chose très importante, c'est une de ses robes en soie et perles. Et c'est une robe que j'ai mise 3-4 fois dans des cocktails. Et c'est des robes qui étaient faites à Paris et qui partaient en Tunisie, qui étaient faites sur mesure, parce qu'ici, on voit, Made in France.
C'est fou. Et qu'est-ce que ça vous a fait de la porter ?
Ah, j'aime beaucoup. C'est sentimental, j'aime énormément. Attendez, excusez-moi deux petites minutes. Allô ? Ça va ? Ça va, dis-moi.
Habiba Marguerite Msik, puisqu'elle a ses deux noms à l'état civil, après elle ne sera connue que par son premier nom, son nom arabe de Habiba. Elle naît dans une famille juive, de musiciens. Son père était un musicien professionnel, un certain nombre de ses oncles, et surtout sa tante, Leïla Sfez, qui était une très grande chanteuse de l'époque. Elle avait un cabaret dans le quartier de Babsouira, qui est un quartier central de Tunis. Et dans son cabaret, dans le cabaret de Leïla Sfez, venaient tous les grands musiciens, tous les grands chanteurs de l'époque. C'était vraiment une sorte de lieu de rendez-vous de la musique de l'époque. Et donc, Habiba Msika, qui était très proche de sa tante, a grandi dans ce milieu musical. Et très vite, en fait, elle a eu envie d'en faire partie. Mais très jeune également, dès l'âge de 12 ou 13 ans, elle a eu envie, peut-être plus encore que d'être chanteuse, elle voulait être comédienne. Tragédienne, disait-elle. Et ce qui est tout à fait dommage, autant on a des archives importante, assez abondante sur sa musique, parce qu'elle a beaucoup enregistré. Elle a enregistré en Tunisie, elle a enregistré en Allemagne, chez Deutsche Grammophon. En revanche, on n'a pas la moindre archive de son métier de comédienne.
C'est un tableau qui comprend beaucoup de photos, donc grands-parents, parents, moi-même et enfants, dont énormément de photos d'Habiba. Là, c'est pour l'Aiglon. Là, c'est dans sa loge. Là, elle jouait Sarah Bernard.
Celle-là ?
Oui. Elle dansait, elle chantait et elle jouait du théâtre.
Ça, c'est la plus connue, j'ai l'impression. C'est celle que j'ai vue un peu partout, la photo avec le petit foulard sur la tête, là.
C'est-à-dire que moi, je les vois depuis que je suis née. Donc, je me rends pas vraiment compte. Ça, vous voyez, quand elle sortait avec un manteau en fourrure, etc. En fait, elle était très diva, quoi.
On dirait qu'elle avait une coupe un peu garçon.
Oui, mais en fait, elle avait pas une coupe garçon. Vraiment, elle avait les cheveux... Elle avait les cheveux extrêmement longs en dessous des fesses.
Là, justement, elle a une tenue qui est très masculine.
Oui, c'était une des premières à être en pantalon sur cette époque-là. Pour une femme, c'était extrêmement rare. Mon bébé. Ça, c'est Habiba à l'école.
Celle-ci ?
Ouais.
Ah oui, c'est impressionnant d'avoir cette photo.
C'est la plus grande de des deux.
Donc celle à gauche.
Oui.
C'est pas possible.
C'est pas possible, mamie.
Toute sa famille est une famille de musiciens. Pourquoi ? Parce que jusqu'aux années 30, justement, les Juifs ont joué un très grand rôle dans la musique tunisienne. Pas seulement, d'ailleurs, en Tunisie, mais dans l'ensemble du monde arabe. Dans l'ensemble du Maghreb, au Maroc, en Égypte, en Irak. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour le Maghreb, les Juifs ont été des gardiens, si l'on peut dire, de la musique arabo-andalouse, importé d'Espagne après l'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe siècle et l'expulsion des Arabes d'Espagne au début du XVIIe. En plus, il y a tellement de femmes juives au début du XXe siècle dans la chanson, c'est qu'elles étaient quand même moins... leur claustration était moins sévère que celle des femmes musulmanes. Et donc, effectivement, leur très relative, bien sûr, liberté, fait qu'elles pouvaient davantage s'exposer en public que les femmes musulmanes. Et les premières célébrités de la chanson musulmane émergent à partir des années 30, justement. Je m'appelle Sophie Bessis, je suis historienne, entre autres historienne de la Tunisie. J'ai écrit une série de portraits historiques de femmes mythes, si l'on peut dire, tunisiennes. Et parmi ces 5 portraits, il y a celui de Habiba Msikaïf.
She was a multi-threat talent in the 1920s.
C'était un talent multiple des années 20. Qui a énormément enregistré des douzaines de 78 tours pour de nombreuses compagnies phonographiques.
For multiple companies who also negotiated her contracts and her royalties, but
elle était aussi une actrice sur la scène de grande réputation.
The Algerian
son impresario algérien
pioneer of theater
Mahadine Bachtarzi
described Habiba Msikaïf as the first
en a fait Arab la première actrice arabe du 20e siècle en Afrique du Nord et il lui a permis de trouver une grande place sur la scène théâtrale.
Alors, vous voyez que c'est un livre qui est au nom Mademoiselle Marguerite Msikaïf, étoile du théâtre arabe. Ici, donc c'est son nom, son adresse, et c'est son écriture. C'est une pièce entière. Elle apprenait toutes ses pièces par cœur. Elle l'écrivait en arabe français et elle le retranscrivait et elle faisait toutes ses pièces en arabe.
Le théâtre n'est pas une tradition arabe. Autant la poésie est une grande tradition arabe, autant le théâtre n'en est pas une. Hein. Il a été amené en Tunisie à la fois par le Nord et par le Sud, c'est-à-dire par la France et par le Liban. Et Mohamed Bourguiba a été un des organisateurs, disons, de ce théâtre tunisien, un créateur de compagnies théâtrales et un acteur. Il a donner la réplique à plusieurs rôles de Habiba Msikaïf, hein, parce que Mohamed Bourguiba a porté Habiba Msikaïf réellement. Il est mort d'ailleurs peu de temps après elle. Et un autre des frères de Habib Bourguiba, qui était Mahmoud Bourguiba, alors lui a joué un rôle très important auprès de Habiba Msikaïf, parce que Habiba Msikaïf était allé à l'école primaire, elle avait après le niveau certificat d'études, mais était allé à l'école publique française de Bamsira. Et donc, elle ne lisait pas l'arabe. Elle parlait parfaitement l'arabe, évidemment, c'était sa langue. Et donc, Mahmoud Bourguiba écrivait en écriture phonétique latine, en arabe, les textes que devait apprendre Habiba Msikaïf. Dans les années 1920, donc époque de sa gloire, Les nationalistes se sont emparés du théâtre et ont fait du théâtre un vecteur des revendications nationales tunisiennes. Et donc, Habiba Msikaïf a été en contact avec les milieux nationalistes. Elle n'était pas forcément politique. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été une femme politique, ça n'a jamais été une militante au sens propre du terme, mais elle avait de la sympathie pour ces gens-là, incontestablement, pour ses deux mentors, Mohamed et Mahmoud Bourguiba, et une certaine sensibilité aux idées nationalistes.
Elle a enregistré des musiques anticoloniales à un moment très délicat Les Français intervenaient et interdisaient beaucoup et essayaient de supprimer certains disques, certaines musiques qu'elle avait enregistrées de la circulation, essayaient d'empêcher la diffusion. Parce que quelque part, cela exprimait les ambitions des peuples d'Afrique du Nord en général. Elle était aussi quelqu'un qui se rapprochait des partis Dustour et néo-Dustour, un parti anticolonial et réformiste qui émergeait comme la force nationale entre les deux guerres, une des forces qui ensuite mènerait le pays vers l'indépendance, même rapidement après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1956. Ses liens avec ces partis étaient clair, en tout cas pour les agents français dès les années 20. Et il semble qu'elle ait eu aussi des relations avec des figures égyptiennes. Le parti Wafd en Égypte, le roi aussi. Il y avait clairement des liens avec des figures politiques dans ce lieu qui était finalement quelque part un creuset d'espoir et d'énergie dans ce mouvement anticolonialiste dans la région, ce mouvement émergent. Et il faut vraiment travailler fort pour enlever la politique de la musique de Habiba Msika. Je m'appelle Christopher Silva, je suis professeur associé à la famille Segal en histoire et culture juive à l'université McGill à Montréal.
Je m'appelle Hejr Benboubakr, je suis chercheuse indépendante spécialisée sur les musiques arabes, je suis aussi documentariste sonore et je pense que peut-être que c'est important de le dire, je suis tunisienne et je pense que ça a un peu de sens dans le cadre de cet entretien quand même de le dire. Habiba Msika savait comprendre le goût du public. Je pense aussi qu'elle avait des opinions qui étaient les siennes, mais qu'elle savait aussi là les préoccupations de son public. Et c'est là où je trouve qu'elle est aussi très importante et qu'on lui rend peut-être pas assez hommage sur cet aspect-là. C'est qu'effectivement, elle était indépendantiste tunisienne, mais qu'elle a su contrer cette censure coloniale française pour raconter ce désir d'indépendance, notamment quand elle va à Berlin enregistrer pour Beidafon et qu'elle chante des chansons indépendantistes, mais pas tunisiennes. Elle chante des chansons égyptiennes, notamment elle chante des chansons en l'hommage au roi Fouad Ier. À l'époque où ça s'inscrit, c'est un moment où en fait il y a une effervescence au niveau égyptien et une indépendance qui va être acquise par les Égyptiens. Et donc chanter ça, c'est aussi dire... Les Tunisiens soutiennent les Égyptiens et puis se voient dans ce combat indépendantiste. Donc elle va reprendre aussi des chants indépendantistes syriens. Après la grande révolte syrienne, en 27, elle reprend « Sori enti biled », donc « La Syrie, tu es mon pays », donc il y a un chant patriotique, indépendantiste, nationaliste.
كل من
Souli Abiled. Toi, Syrie, tu es mon pays. Toi, tu es le symbole d'une révolte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé le 28 décembre 1921, quand Habib Amsik a elle-même écrit une lettre destinée au secrétaire général du protectorat?
C'est là un des très rares documents que nous avons, l'original, sur papier. Les autorités françaises ressentaient bien ce que la musique permettait sous le protectorat. D'un côté, les Français laissaient faire, et bien sûr, surveillaient avec beaucoup d'attention les concerts, et comprenaient que la musique est quelque chose qui évoque la politique. Et puis, c'était des gens qui venaient de toutes les classes, qui soudain se sentaient un peuple, devant une figure comme Habib Amsik. Donc, ils étaient rassemblés par elle. Et ce dont on parle là, c'est que juste après la Première Guerre mondiale, c'est un scénario dans lequel un concert est supprimé par les autorités françaises. À Tunis, un concert allait commencer. Les Français ont tout annulé par peur de l'implication politique et que quelqu'un ferait une allusion à une personnalité nationaliste. Et donc, elle a voulu que le concert continue. Et c'était quelque chose de très courageux de sa part à un moment où elle devenait une voix importante dans le pays.
Il y avait beaucoup de juifs tunisiens qui étaient très sensibles aux idées émancipatrices et à la revendication d'une Tunisie. À l'époque, on ne parlait pas tellement d'indépendance, mais on parlait d'autonomie. Vous savez, les relations judéo-musulmanes en Tunisie, comme dans le reste du monde arabe, sont des relations dont il faut récuser deux légendes, à mon avis, qui courent et qui sont aussi fausses l'une que l'autre. La légende noire qui veut que les juifs dans le monde arabe aient subi les pires persécutions et toujours été abominablement malheureux. La légende rose qui dit que c'était merveilleux, que les juifs et les arabes s'entendaient, s'aimaient, s'embrassaient tous les jours et que la colonisation a tout fichu en l'air. Bon, ces deux versions de l'histoire sont des versions absolument fausses. C'est-à-dire que le judaïsme est très présent dans le monde arabe depuis la plus haute antiquité. À l'époque de Habib Amsik, on estime qu'il y avait environ une trentaine de milliers de juifs qui vivaient à Tunis. Le quartier des juifs populaires, c'était la Hara de Tunis, parce que la majorité des juifs étaient très pauvres. La Hara était un quartier misérable. Et puis vous aviez une toute petite bourgeoisie juive, et puis vous avez également des notables juifs, une bourgeoisie plus aisé, qui avait fait des études, qui... Traditionnellement, les Juifs avaient été discriminés, comme partout, hein, jusqu'en 1857 en Tunisie. Puisqu'en 1857, le pacte fondamental, Ahl al-Amen, a donné les droits civiques aux Juifs. Mais, pour autant, les Juifs étaient des citoyens de seconde zone. Donc il y a une profonde différence de religion, mais il y a une communauté de culture. Et Habib Amsik est l'exemple même de cette communauté de culture. Avant la francisation progressive d'une partie d'entre eux, enfin, les Juifs étaient arabophones, complètement. Les traditions familiales étaient un peu les mêmes, les traditions culinaires étaient les mêmes, et les amitiés, il y en a plein, des amitiés, des connivences, des familiarités.
عدلة يا عدلة سيدي محرزي
elle va se distinguer et commencer à enregistrer ses premiers disques qui vont tout de suite rencontrer du succès, à mon avis, pour deux choses. Bon, il y a la question de la voix, évidemment, donc elle plaît au public, mais je pense aussi que c'est la question des thématiques qu'elle aborde. Pour moi, c'est une des premières grandes chanteuses de variété. Elle s'inspire des traditions musicales qui se développent, et notamment de la chanson courte, parce qu'en fait, la tradition musicale, qu'elle soit arabo-andalouse du Malouf, ou qu'elle soit celle du tarab égyptien, voilà, c'est des traditions de musique, on va dire, schématiquement longues, avec des grandes introductions musicales. Elle va s'inscrire dans cette nouveauté qui est due, en fait, à la technologie du phonographe. On ne peut pas enregistrer un morceau aussi long sur un phonographe à l'époque. Et elle va être une des premières artistes tunisiennes à se lancer aussi dans ce créneau-là, en s'inspirant beaucoup des divas égyptiennes qui sont connues à Tunis. Parce qu'on est vraiment dans un moment où ça circule beaucoup à travers les grands labels européens, Pathé, Gramophone, mais aussi à travers les premiers labels locaux. Et je pense évidemment à Baïdaphone, qui est un label qui a été créé à Beyrouth par les frères syro-libanais, les frères Baïva, et qui vont aussi investir le marché de l'Afrique du Nord en enregistrant les artistes, et notamment Habiba. Et Habiba, elle s'inspire de quoi? Quand elle s'inspire musicalement, elle s'inspire à mon avis de deux choses principalement, les taktokat égyptiennes. Donc ça, c'est un genre musical qui, pareil, apparaît dans les années 20 en Égypte, qui est un genre musical de chansons plutôt légères, en arabe vernaculaire, donc en dialecte, très accessible en termes de compréhension, et chantée par des femmes. Et puis elle s'inspire du théâtre musical, et notamment d'un homme, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de la musique arabe, y compris de la musique tunisienne. Il est aussi important dans les histoires nationales de plusieurs pays, le Liban, puisqu'il a été repris par Fayrouz par exemple, c'est Saïd Darwish, qui est un homme de théâtre égyptien, mais qui est aussi un immense musicien. Et en fait, elle va reprendre ses titres, parce qu'en fait, elle arrive, je pense, en plus de ses talents d'actrice, à capter ce qui plaît au public et aussi à adapter ça à un public tunisien. En plus, on voit qu'elle a une façon de chanter qui est quand même très spécifique à l'époque, un peu du nez, et avec ce côté un peu criard parfois, mais qui était très à la mode. Enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'elle qui chantait de cette manière-là à l'époque.
Elle n'est pas considérée comme la plus grande voix de la Tunisie de l'époque. Et elle ne l'est pas, d'ailleurs. Elle a été une grande chanteuse, mais ses contemporains considérer par exemple que la LSFS, sa tante, avait une voix beaucoup plus belle que celle d'Herpi Vamsik, que c'était une beaucoup plus grande chanteuse, la LSFS. Mais d'abord, c'est la première à avoir popularisé le chant féminin en solo et à avoir couplé le chant et la danse. Ses tours de chant, ses concerts étaient des moments de spectacle total, pourrait-on dire aujourd'hui. Elle changeait 3 ou 4 fois de costume au cours d'un concert, des costumes absolument flamboyants. Donc c'était vraiment une chanteuse totale. Et ça, ça a été quelque chose de tout à fait nouveau.
Mon premier amour, je jure que je ne l'oublierai jamais. Mon premier amour, je l'aime du plus profond de mon cœur. Mon deuxième amour, je jure que je ne l'oublierai jamais. Mon deuxième amour, je jure que je ne l'oublierai jamais. Mon deuxième amour, je l'aime du plus profond de mon cœur. Mon deuxième amour, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Mon troisième amour, je jure que je ne l'oublierai jamais. Mon troisième amour, je jure que je ne l'oublierai jamais. Mon troisième amour, je l'aime du plus profond de mon cœur. C'est encore là, je ne l'oublierai jamais.
Ça, on peut dire que c'est une des chansons qui exprime du féminisme et nous permet d'écrire une nouvelle histoire du féminisme entre les deux guerres dans la région. Habibi El Awel, mon premier amour. C'est une jeune Tunisienne qui chante sur son premier amour. Et dans les années 20, c'est quelque chose qui est provocant, en fait. Ça emprunte à la musique andalouse, qui parle vraiment aussi du corps. Et ce qui est incroyable, c'est que la chanson avance, se développe. Elle parle non seulement de son premier amour, mais dans le vers suivant, elle parle de son deuxième amour. Et puis elle va chanter de son troisième, quatrième, cinquième amour. On imagine la provocation. Et puis, quelque chose qui est complètement provocateur, quelque chose qui n'est pas du tout dans les codes. Et ce qu'elle fait avec cette chanson, c'est qu'elle met son public, les gens qui l'écoutent, complètement au bord de la falaise.
En quoi Habib Msika était une figure de la transgressivité?
Mais en tout, c'était une figure de la transgression. Je pense à sa présence physique. Je pense à l'apparence qu'elle cultivait, les cheveux courts, pas de robe traditionnelle. Elle est transgressive également dans le rôle qu'elle prend sur scène au théâtre. Elle joue des personnages d'hommes et elle s'affirme comme quelqu'un qui est à l'égal de ses collègues masculins. On peut aussi penser à elle comme quelqu'un qui est très déterminé pour posséder sa musique, pour rester maîtresse d'enregistrer ce qu'elle veut, de s'assurer qu'elle gagne de l'argent avec ça et qu'elle garde la possibilité d'enregistrer pour de nombreuses compagnies, ce qui était... C'était un anathème à l'époque, c'était pas du tout normal. Et donc elle gérait tout à fait bien ses droits. Et elle transgressait en cela, pas seulement en tant que femme, mais en tant que musicienne à l'époque.
Très libre, elle voulait cette vie libre. Elle menait une vie de diva, de star. Alors, on lui a prêté probablement, mais c'est toujours le cas, plus d'amants qu'elle n'en a eu réellement. Des amants absolument fabuleux, un prince de la famille Bellicale, un prince égyptien. Celui-là, c'est probablement vrai, hein, parce qu'il y a des archives là-dessus. En revanche, l'homme qui l'a assassiné, Maïmouni, n'a jamais été son amant. Contrairement à ce que certaines histoires disent, que c'est un amant déçu. Non, il n'a jamais été son amant. Il a été son chevalier servant, parce qu'elle lui a fait payer un certain nombre de ses tournées en Europe. Enfin, son assassin a voulu la supprimer et se supprimer également à partir du moment où la rumeur a dit que le projet de mariage entre Habib Msika et Raoul Merd était un projet tout à fait sérieux. Elle était très transgressive, et c'est elle qui a inauguré en plus ce que d'autres, des chanteuses postérieures à elle, ont voulu transformer en tradition, c'est les Askar el-Lil. Alors, qu'est-ce que c'est les Askar el-Lil? Si on traduit en français, ça veut dire les soldats de la nuit. Donc c'était un groupe de fervents, de groupies, on pourrait dire aujourd'hui, hein, de Habib Msika. C'est Askar el-Lil, ces soldats de la nuit, c'était des jeunes... issus de la bonne bourgeoisie tunisoise, de grandes familles tunisoises, qui constituaient sa garde rapprochée, si l'on peut dire. Et elle était très fière d'avoir sa garde rapprochée de jeunes bourgeois de tunisois qui la protégeaient, qui faisaient la claque dans ses concerts, en fait. Voilà.
C'est quelqu'un qui était très, très aimé, mais elle était aussi... au même titre, pas du tout aimé d'une partie de l'intelligentsia tunisienne de l'époque. Moi, je pense notamment à deux personnes qui sont quand même importantes à cette époque-là, à Hassan El-Jazir, qui est en fait un journaliste tunisien, zaytounien, donc il a fait ses études à la Zaytouna, donc l'université islamique de Tunis. Il est devenu un des premiers journalistes, dans ce moment d'effervescence journalistique et littéraire tunisien, et un des premiers journalistes satiriques. Et en fait, il va beaucoup s'en prendre à elle. Lui, il est plutôt conservateur. L'un des premiers reproches, c'est évidemment ce côté comment ose-t-elle jouer des rôles d'hommes. Mais en même temps, elle va aussi déplaire à une frange idéologique différente, les communistes, avec notamment un grand poète tunisien, Abderrahmane El Kefi, communiste, membre du Parti communiste tunisien, donc dans les années 20 et début des années 20, puis après qui va rejoindre le Destour. Et lui, donc, c'est plutôt donc un communiste avec des idées communistes, mais néanmoins, il va pas du tout non plus cautionner l'audace. Et il va aussi l'attaquer. Et moi, ce que je lis dans ça, c'est qu'elle a osé bouleverser des normes patriarcales et que même des gens qui sont politiquement pas du tout d'accord sur l'avenir de la Tunisie vont quand même s'en prendre à elle parce qu'elle remet en question les normes sociales et notamment les normes patriarcales. Et qui montait sur scène, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs à l'époque, au début du XXe siècle, en Tunisie, au Maghreb, dans le monde arabe en général, et même d'ailleurs en Europe, je veux dire de manière générale, les gens qui font profession d'artiste, c'est pas c'est les gens qui sont souvent d'extraction sociale pauvre, qui sont, pour le cas des femmes, fugueuses, veuves, qui sont donc souvent soutien de famille ou qui sont obligés de travailler. Ils font profession de leur talent, que ce soit de la danse, que ce soit du chant, notamment parce qu'elles sont issues de milieux sociaux marginaux. Et en fait, le fait que ces personnes-là commencent à avoir du succès, c'est aussi quelque chose qui va autant gêner des milieux conservateurs que des milieux de notabilité, où d'un coup, le modèle social, ça devient une profession qui était jusque-là réservée au moins bien dotée. C'est là où je disais qu'elle s'inscrivait dans une évolution de la scène culturelle, c'est que ce statut commence à changer.
La grande vedette tunisienne Habiba Msika a été assassinée. Un crime odieux a jeté la consternation dans la population musulmane et israélite de Tunis, ainsi que dans toute la régence. La gracieuse vedette Habiba Msika, qui par ses danses et ses chansons était l'âme de toutes les représentations indigènes, a été lâchement assassinée dans des circonstances qui dénotent un esprit de folie chez le meurtrier.
Un soir, elle revenait tardivement d'un concert privé, elle va dormir. Lui entre avec deux bidons d'essence.
Ce dernier, un monsieur Mimoun Eliaou, israélite tunisien, était reçu familièrement depuis quelques années dans l'entourage de la chanteuse. Il avait ses entrées dans l'appartement d'Habiba, qu'il avait souvent comblé de cadeaux.
Donc on le laissait entrer chez Habiba Msika facilement.
Fut-il en proie un soir à un accès de jalousie furieuse ? Toujours est-il qu'une certaine nuit, profitant du sommeil profond de la chanteuse sans méfiance, il
asperge son lit et sa chambre, met le feu et le flambe. C'est spectaculaire d'après les témoins.
Réveillé en sursaut par les brûlures, Habiba se débattit dans les flammes tandis que le misérable la maintenait sur ce lit de douleur où elle ne tarda pas à s'évanouir. Le meurtrier fut d'ailleurs grièvement brûlé lui aussi.
Des médecins sont appelés immédiatement, elle est emmenée à l'hôpital immédiatement, mais ses brûlures étaient tellement graves qu'elle est morte quelques heures plus tard.
Mimoun fut arrêté de suite et transféré à l'hôpital où le diagnostic des médecins n'a pu encore certifier qu'il pourrait survivre à ses blessures.
Mimouni est mort quelques semaines plus tard parce que lui aussi a été brûlé dans l'affaire.
Ce crime horrible a jeté la consternation dans tous les milieux qui avaient l'habitude d'applaudir Habiba Msika.
Il y avait des milliers de personnes à son enterrement. Les gens jetaient des pierres quand le cercueil de celui qui l'a tué passait. Quand vous êtes une toute petite fille, ça vous marque.
Ces obsèques ont déplacé des milliers de personnes. Les plus grandes personnalités du monde théâtral et artistique et musical tunisien ont fait des discours à ces obsèques. Donc ça a été vraiment un chagrin populaire, la mort de Habiba Msika. Et aujourd'hui, on dirait que c'est un féminicide, évidemment. Voilà. L'assassinat de Habiba Msika est un pur féminicide.
So her funeral held
ses funérailles ont été organisées quelques temps auprès, suivant le rite juif. Un de ces événements que le protectorat français a laissé faire, parce que l'émotion autour de l'assassinat de la plus grande chanteuse de l'époque. Les autorités ont permis le rassemblement de milliers de gens qui venaient de tous les milieux, juifs et musulmans, des milliers qui ont marché ensemble. Et on sait, de sources des services secrets français, que les Français étaient très inquiets. Inquiets que les Juifs et les musulmans marchent ensemble. Ça n'était pas quelque chose qui était autorisé. Il s'agissait de diviser pour mieux régner. Il y avait des figures indépendantistes parmi les milliers de gens dans la foule qui représentaient l'émergence d'un nationalisme anticolonial, comme le parti Néo-Destour et les personnes qui gravitaient autour de Bourguiba, par exemple. Ils s'échangeaient des informations en essayant de profiter de l'occasion pour faire avancer leurs idées politiques.
A number of her records, of Habiba Masika's records, in the immediate aftermath of her death.
Pour de nombreux disques de Habiba Masika, juste après sa mort, leurs ventes ont augmenté. C'est le scénario typique, en fait, d'une vedette assassinée dont les gens veulent réentendre la voix. On voit que c'est surtout les disques nationalistes et anticolonialistes qu'elle avait enregistrés pour le label Bidaphone, qui étaient plébiscités. Des chansons comme « Inti Suria Biladi »,« Syrie, tu es mon pays », ou l'hymne national égyptien. Les services secrets français étaient d'ailleurs de plus en plus inquiets de la large diffusion de ces chansons, mais de ce que les gens en faisaient. Il les passait dans des petits rassemblements, il chantait les paroles, et donc se réunissait autour de ces disques, toutes classes confondues. Elle était une pionnière de la musique, une des premières femmes dans ces métiers, et une figure importante du nationalisme et de l'anticolonialisme. Et ce contexte, il a été effacé ou oublié, d'une façon ou d'une autre.
Même quand je suis là-bas, je n'y suis pas, car ce monde a disparu. Disparu. Disparu.
À partir des années 40, elle a été un peu oubliée, la musique. Surtout que, là aussi, s'est constitué un nationalisme arabo-musulman à partir de la création de la Rachidiyya, l'Académie musicale, en 1934. Même si les chanteurs juifs ont continué à être très importants, je pense au plus célèbre d'entre eux qui était Cheikh Lafrit, qui a été une des plus grandes voix tunisiennes, et puis après Raoul Journo, après la Deuxième Guerre mondiale aussi, qui a été une très grande voix tunisienne. Donc, mais disons que ces grandes voix, à part Cheikh Lafrit, parce que c'est impossible de faire l'impasse sur lui, mais les commentateurs nationalistes ont un peu invisibilisé les chanteurs et les chanteuses juifs tunisiens. Et puis, les juifs sont partis et la famille de Habiba Masika a quitté la Tunisie, y compris sa sœur Nina. Son neveu, qui était son fils adoptif, Serge Arouas, a quitté la Tunisie en 1956. Et puis, à partir des années 1980, on peut dire, il y a une espèce de revival, une espèce de nostalgie tunisienne de cette période. Le personnage tout à fait mythique de Habiba Masika est reparu. Et donc, il y a eu sur elle des films, il y a eu des livres, il y a une Tunisie qui a retrouvé Habiba Masika.
Moi, qui avec le feu de mes tripes, je vais les brûler. نبعت سلامي مع الرعد عقب الشتا والليالي يا محفل ريتو شيخ ديجا يا محفل ريتو شيخ ديجا
La mémoire de Habib Msika s'est construite par étapes. Juste après sa mort tragique en 1930, elle provoque une forte émotion collective, largement relayée par la presse. Mais très vite, dès l'année suivante, cette émotion retombe. Sa mémoire réapparaît ensuite de manière ponctuelle entre les années 1950 et 1973, notamment à travers le témoignage de Heidi Tamzali dans « Images retrouvées », rédigé en 1950, mais publié seulement en 1992, ce qui montre une mémoire longtemps restée en sommeil. Donc Heidi Tamzali était comédienne, mais elle était également journaliste et écrivaine. Et dans son livre, justement, « Images retrouvées », elle a beaucoup parlé de Habib Msika parce qu'ils habitaient l'un devant l'autre, donc dans le même quartier. Et elle a des souvenirs très particuliers. Elle l'écoutait en train de chanter ou bien dans des soirées. Un autre moment symbolique important a eu lieu en 1973, lorsque Habib Bourguiba, président de la Tunisie, évoque publiquement Habib Msika lors d'une conférence sur l'histoire du mouvement national, l'intégrant brièvement au récit national. À partir du milieu des années 1980, on assiste à une véritable réhabilitation. Livres, films, expositions et spectacles contribuent à la redécouvrir comme icône artistique et figure féminine transgressive. Je m'appelle Fatène Boujrara, je suis doctorante en patrimoine à l'université de la Manouba en Tunisie.
Même quand je suis là-bas, je n'y suis pas car ce monde a disparu.
Je pense que cette mémoire-là, qui s'inscrit en plus dans le récit des femmes tunisiennes, donc d'une histoire sociale de la Tunisie, qui est en plus souvent mise en avant pour ces raisons-là aussi, hein, donc d'un pays avant-gardiste sur ces questions de droits des femmes, bah, a peut-être aussi eu tendance à inscrire son œuvre vraiment dans sa vie privée, alors que si elle était connue et si elle était si importante, c'est d'abord pour son talent. Et ça m'interroge d'autant plus que, par contre, pour un autre chanteur issu de la communauté juive, Cheikh El Ifrit, il n'a pas disparu des mémoires et des écoutes. Moi et ma grand-mère, elle l'écoutait toujours. Et ma mère connaît ses chansons. Là, j'ai l'impression que les gens sont moins capables, en Tunisie aujourd'hui, de me citer une chanson de Habiba et de la chanter. C'est aussi ça, être une femme artiste, c'est que dans la mémoire collective, dans ce qui reste, c'est pas forcément... l'œuvre qui va rester. Alors que je pense que Louisa de Tutsi, qui, voilà, elle émerge après, elle est plus jeune, aussi issue d'une famille juive tunisienne, grande chanteuse, très à la mode. Comme elle intervient en plus dans les années 40-50, alors le marché du disque se stabilise, on quitte le phonographe pour des choses beaucoup plus faciles d'accès au grand public, les gens commencent à pouvoir aussi se procurer des machines pour les écouter, puisqu'avant, on est quand même, à l'époque de Habiba, dans une écoute collective dans les cafés, parce que tout le monde ne peut pas s'acheter un phonographe. Un phonographe, c'est énorme, hein. C'est un espèce de meuble qui prend de la place, ça coûte cher. Et à partir du moment où ce milieu du disque et cette technologie du disque évolue et se développe, les choses s'ancrent mieux dans les mémoires.
Merci.
Le troisième étage.
Ça marche, merci.
Et c'est aussi ça qui fait que son succès est intéressant. C'est qu'en fait, elle va quand même complètement créer l'hystérie, alors même que les technologies ne sont pas encore au point pour le star system tel qu'on va le connaître dans le monde arabe dans les années 40-50, où là, bah, en fait, ça va être complètement le raz-de-marée des stars et des divas, et l'ère des divas va complètement s'installer.
Ici, j'ai mon petit home studio, du coup, dans lequel je compose et je remixe. Et au début, c'était un peu plus large, on va dire, quoi. Je jouais aussi bien de la disco que de la cumbia et tout ça. Puis petit à petit, en fait, je me suis de plus en plus recentrée sur la musique arabe et judéo-arabe, parce que ça m'intéressait d'aller creuser un peu dans mon héritage personnel et mes racines musicales. Mon nom d'artiste, c'est Charou. Et je suis DJ, productrice, musicienne. Voilà, je fais ça depuis une dizaine d'années maintenant. Avant de m'intéresser aux musiques électroniques, j'ai été pianiste, guitariste, tout ça, donc je touche un petit peu à tout. Je joue pas mal de synthé aujourd'hui, boîte à rythme, tout ça, mais aussi j'ai mes petites guitares ici, guitare électrique, basse électrique, guitare sèche. J'ai des petits synthés sympas ici, notamment ce petit Casio qui est rigolo. Toi. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, c'est un peu un jouet, mais
il est trop mignon.
Je vous le montre quand même parce qu'il est chouette. C'est les petits Casio arabiques.
Ah oui, il y a écrit en
arabe. Et ouais, c'est en gros les instruments virtuels et tout, c'est des... Enfin, les instruments synthétiques, c'est des trucs... c'est Kanun, Oud, Ney, c'est les instruments de la musique orientale, quoi, donc c'est marrant. J'aime bien les remixes... Je sais pas si discret, c'est le mot, mais en tout cas, j'essaie vraiment de pas dénaturer l'original parce qu'ils sont trop magiques et trop merveilleux, et donc... si c'est pour juste le défoncer, c'est pas la peine, quoi. J'essaye de faire quelque chose d'assez assez subtil, si on peut dire, dans le remix, dans la manière de retravailler un peu les sons et tout. Moi, je viens d'une famille juive séfarade de Tunisie par mon père et de Grèce par ma mère. Et du coup, je vivais dans le même immeuble, même sur le même palier que ma grand-mère. Enfin, j'ai grandi, vraiment très proche d'elle et de ma grand-mère tunisienne. Et puis, elle écoutait beaucoup de musique. Elle avait sa petite collection de disques. D'ailleurs, je peux vous montrer aussi.
Même quand je suis là-bas, je n'y suis pas, car ce monde a disparu. Disparu. Disparu.
Je vais voir ce que j'ai là-dedans.
Donc ça, c'était à votre grand-mère, tout ça?
Non, celui-là, je l'ai acheté. Là, il y en a plein que j'ai acheté, mais il y en a quelques-uns à ma grand-mère. Celui-là, c'était à ma grand-mère, je crois bien. El Kahlaoui, avec Habitek
Yassine. Ah ouais, mais c'est fou, il est vraiment... il est classe, hein?
Ouais.
La photo, très bien. Ouais. Mais là aussi, c'est El Kahlaoui, tout aussi.
Ouais, j'en ai plein du Kahlaoui. On en trouve beaucoup dans les disquaires du Kahlaoui.
Jusqu'à maintenant.
C'était assez prolixe, ouais.
Et vous les avez récupérés, vous l'avez demandé, ou elle a...
Ah bah c'est quand elle est décédée, j'ai récupéré ça. Je pense qu'il n'y a que moi que ça intéresse.
Personne d'autre,
vous. Ouais. Non, mon père, il en avait récupéré quelques-uns aussi. Attends, Raoul,
ah ouais, elle est belle. Oh, elle est trop belle, la pochette.
Elle est belle, hein. Folklore judéo-tunisien. C'est des chants religieux, mais c'est, de toute façon, c'est toujours un peu à mi-chemin dans le répertoire juif, quoi. Souvent, c'est des chants religieux. Hein. Est-ce que c'est pop? Est-ce que c'est religieux? C'est toujours un peu les deux, au final. Et ça, j'adore, d'ailleurs, c'est signé par ma grand-mère, Irène Pérez.
Oh, mais c'est trop mignon.
On dirait qu'elle voulait l'amener à une boum et elle voulait pas se le faire voler. Donc ça m'a fait plaisir d'aller rechercher là-dedans et retravailler un peu ces musiques-là, donc soit par le remix comme on voit sur le disque, soit aussi par la composition, mais donc utiliser un peu les outils de la musique électronique et les mettre un peu au service des musiques orientales, quoi. Ça, du coup, c'est au début, j'ai juste sorti un remix de Raoul Journeau parce que je trouvais ça intéressant de remixer des morceaux qui parlent de notre histoire, de les remettre un peu au goût du jour, ou en tout cas, je trouvais que c'était une occasion marrante de reparler de tout ce pan de l'histoire. Donc j'en ai sorti un premier pendant le Covid, ensuite aussi à ce moment-là quand j'ai commencé à vraiment me replonger dans cet héritage musical et tout ça, j'ai découvert Habib Amsik, que je connaissais pas. C'est un ami tunisien de Madrid qui m'a fait découvrir. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que ça rassemblait un peu toutes les parties de mon identité aussi. Je la trouvais trop inspirante parce que c'était à la fois donc une juive tunisienne du début du siècle avec tout ce que ça peut comporter de de tradition et tout ça, mais à la fois, elle faisait totalement voler en éclats justement cette tradition, et c'était une figure hyper rebelle. Et je me suis aussi souvent sentie un petit peu déchirée, c'est un bien grand mot, mais entre, voilà, un peu partagée entre cet héritage un peu traditionnel que j'ai par ma famille. Bon, on n'est pas une famille religieuse, mais quand même, on est très attaché au rite, et puis aussi ma vie de jeune femme du 21e siècle, musicienne, je vivais ma vie très librement à Madrid, et donc je me sentais souvent un peu déchirée entre tout ça, et c'était chouette de trouver des figures qui font un peu la synthèse de toutes ces parties. Je pense qu'il y avait quelque chose un peu d'intrigant là-dedans pour nous, parce que nous, on n'a pas vécu cet exil et tout de plein fouet, quoi. C'est quelque chose qui nous a été rapporté, raconté, ou pas raconté, mais en tout cas, voilà, on a chopé des bribes de cette histoire, de cette mémoire et tout ça, sans que ce soit très clair en plus, parce que je sais pas, souvent, je sais que c'est mon cas, mais c'est le cas aussi beaucoup d'autres gens, on a reçu ce discours un peu paradoxal aussi de un jour, ah, la Tunisie, c'était tellement formidable, ça nous manque tellement, ce pays merveilleux, etc. Et le lendemain, ah quoi, la Tunisie, j'ai rien à voir avec ça. Voilà, des sortes de contradictions qui sont sans doute un peu le fruit d'une histoire douloureuse, quoi, comme tu le dis, de l'exil. Donc je pense que pour nous, effectivement, il y a quelque chose d'assez intriguant et qu'on a tous eu envie d'aller chercher, d'aller voir par nous-mêmes, d'aller comprendre ouais, nos racines, quoi, simplement.
Habib Tolkol, ça veut dire l'aimé de tous.
Bien sûr, voilà. On a pris son nom et on l'appelait Habib Tolkol, l'aimé de tous.
C'était Habib Amsika, une artiste libre aux multiples talents. Merci à Sonia Arouas, Sophie Bessis, Christopher Silver, Hejr Ben Boubakr, Feten Bouchrara et Sarah Perez. Traduction et interprétation, Harold Manning. Lecture et interprétation, Joachim Salinger. Prise de son, Gilles Gallinaro, Pierrick Charles, Timothée Hubert, Ange Auduc et Mathieu Tourin. Mixage, Guillaume Ledu. Documentation sonore, Thomas Henry et Samy Messaoud. Coordination, Emmanuel Laurentin et Sandrine Chaperon. Un documentaire de Nejoud Rejbi, réalisé par Félix Levacher.
C'est bien, on va voir la neige qui crépite. Sous nos pieds.